Alors, toute cette série d'événements s'est construite autour de l'accueil de l'exposition intitulée Archéosexisme, qui a été créée par le collectif Peïta Truel et l'association Archéoéthique. Donc, c'est une exposition itinérante qui a recueilli des témoignages de violences sexistes et sexuelles en archéologie, essentiellement sur le chantier, donc sur le terrain, qui est vraiment un peu différent du sexisme qu'on peut subir à l'université, en laboratoire, etc. Donc nous, ça nous semblait intéressant déjà de la faire venir pour le public du Grand Ouest, surtout le public archéologue, mais pas que, et surtout symboliquement la faire venir à Rennes 2 et l'exposer dans le Hall B était très intéressant pour nous, avec toute cette symbolique forte politique dont le Hall B est chargé. Une fois que ce projet s'est concrétisé et a été mis en place, on s'est dit que c'était vraiment l'occasion de parler du sexisme en archéologie et de revenir sur l'archéologie du genre à Rennes 2, qui n'a pas du tout une tradition d'études là-dessus, et où le sexisme n'avait pas forcément été plus spécialement que ça dénoncé. Donc ça, vraiment le point de départ de notre projet était la venue de cette exposition. Ensuite, le service culturel nous a contactés pour mettre à notre disposition des locaux au Tambour, avec 15 cadres, donc pour si jamais on voulait faire effectuer et créer une autre exposition graphique. On a saisi l'occasion, et donc on a créé une exposition qui s'intitule « Portrait de femmes archéologues militantes ». Et nous avons décidé de sélectionner 15 femmes. Donc on a essayé de piocher un peu partout dans le monde, un peu partout dans les époques, hein, pour respecter vraiment la grande diversité de toutes ces femmes emblématiques pour la discipline. Et nous avons fait un appel à projets et des artistes nous ont réalisé 15 portraits différents. Donc 15 artistes ont réalisé 15 portraits de femmes militantes. Le résultat est vraiment formidable. On a une grande diversité des techniques, une grande diversité de la façon dont les portraits ont été traités, et ça permet déjà de mettre sur le devant de la scène des grandes figures féminines scientifiques en archéologie, et aussi des femmes qui se sont battues pour leurs droits, pour les droits de leurs sœurs, et pour des idéaux d'égalité et d'éthique. Donc ça permettait vraiment de compléter l'expo archéosexisme, qui se focalisait sur le sexisme ordinaire vécu sur le terrain, pour vraiment basculer sur la place de la femme en tant que chercheuse également, et sa place dans la recherche en archéologie.
L'exposition Portrait de femmes archéologues et militantes vise à rendre hommage à 15 femmes chercheuses ayant évolué dans un milieu traditionnellement masculin et qui, dans leurs travaux académiques comme dans leur vie, se sont battues pour ces idées d'égalité et de solidarité. Les portraits exposés sont des œuvres originales créées par des artistes inspirés par les parcours de vie de ces femmes engagées.
Jeanne Delafoy, du coup, c'est une femme qui a vécu au 19e siècle.
Sacha Calcina, guide conférencier à l'Office de tourisme de Rennes.
Elle est née dans une famille de commerçants assez aisés, elle a grandi dans un couvent, et du coup ça lui a donné une éducation très stricte, très de droite, et elle va du coup avoir un penchant réactionnaire assez fort. Elle est anti-avortement, elle chie totalement sur le féminisme, etc. Et moi je pense que c'est une partie de ses prises de position très droitières qui vont faire que pendant le reste de sa vie, elle ne va pas être taxée d'hystérique, de perversité, comme c'est habituellement le cas sur les femmes qui osent porter le pantalon ou qui défendent les positions qu'elle va défendre par la suite. Sa carrière d'archéologue, elle va la commencer auprès de son mari, qui va commencer à voyager. Il voyage beaucoup pour le service des monuments nationaux, il voyage un petit peu en Europe, et elle va le suivre un petit peu partout. Et c'est lorsque la guerre franco-prussienne éclate en 1971 que les choses vont vraiment prendre un autre tournant dans sa vie. Puisque du coup son mari, il est engagé comme capitaine dans le corps des ingénieurs militaires. Du coup il est envoyé au front, il n'a pas le choix. Et elle est envoyée à l'arrière en tant que cantinière. Ça va absolument pas lui plaire du tout. Elle va totalement se rebeller contre ça. Évidemment qu'autour d'elle, personne ne veut l'entendre. Tu es une femme, tu vas à ton rôle de cantinière et d'infirmière et tu te tais. Du coup Jeanne Delafoy, elle va dire très bien, elle va aller voler le costume de guerre d'un franc-tireur, d'un tireur d'élite. Elle va lui piquer son uniforme, elle va lui piquer son arme, et elle va aller sur le front pour rejoindre son mari. En faisant d'une pierre deux coups, un, elle ose porter un pantalon alors qu'elle est une femme, deux, elle brave tous les interdits militaires qui doivent exister à l'époque, potentiellement, et trois, en plus, pour aller rejoindre son mari. C'est un acte délictueux assez fort, et c'est grâce au statut de son mari qu'elle va parvenir à échapper à toutes les sanctions qu'elle aurait dû prendre. Donc voilà, c'est vraiment quelqu'un qui a eu une vie folle, et du coup on est très content qu'elle puisse être représentée ici. Elle a été représentée juste sur son buste, avec ses cheveux courts, dans un style très androgyne. On a vraiment du mal à distinguer son genre, et même si elle ne s'est jamais définie comme étant homme, même si elle n'a jamais évidemment souscrit à aucun féminisme et ne s'en revendiquait absolument pas, il n'empêche que au regard d'aujourd'hui, il serait probablement considéré comme un homme trans en réalité, quoi. Donc voilà, c'est l'ensemble de ces éléments que j'ai trouvé assez incroyable et qu'on a voulu retranscrire ici. On est très content que ce portrait soit là.
Un des points de départ de cette archéologie du genre, ça vient du fait, très logique au final, que lors des premières découvertes archéologiques, les archéologues masculins, pour la grande majorité d'entre eux, ont calqué le cadre de vie sociétale et patriarcale dans lequel ils vivaient sur les découvertes faites. Donc forcément, un homme enterré avec une arme, un squelette enterré avec une arme allait être un homme, et un squelette avec je sais pas, une robe et parfois une coiffe allait être plutôt une femme, ou avec des bijoux. Il a fallu attendre que certaines femmes se posent des questions pour resituer en fait la place de la femme en tant que sujet de recherche, et pour qui ont donc toutes ces réflexions abouti à des réexamens, des réétudes en effet de certains squelettes, un peu plus connus avec la Dame de Vix près de Chalon en Champagne, bon, je sais plus, bref, vers l'est, où voilà, c'est une tombe d'un squelette avec un char, avec beaucoup d'offrandes, avec des armes, donc forcément ça devait être un homme. Évidemment, c'est un grand squelette en plus, donc on est tout de suite parti sur c'est un squelette d'homme. Les premières recherches ont montré qu'en effet c'était un squelette de femme, donc tout de suite, alors la réaction des hommes chercheurs ont été « Ah oui, mais c'était peut-être une femme très virile et masculinisée, ou voilà, qui avait un problème et qui était plus du côté des hommes », alors qu'en fait non, c'était une femme tout à fait normale, enfin tout à fait normale, non, j'aurais pas dû, non, je devrais pas dire ça. C'était vraiment une femme sans problème génétique particulier, qui avait juste une grande ossature, comme certaines femmes peuvent l'avoir. Et les premières études, c'est marrant, mais en France, les premières études sur l'archéologie du genre ont été assez mal reçues. C'est souvent décrédibilisé par nos collègues masculins. Donc ça montre aussi que la société n'est pas forcément prête en fait à toutes ces remises en question. D'où le travail que nous aussi on fait d'un point de vue de la médiation et d'un point de vue de la vulgarisation de tout ça, pour essayer de faire connaître cette archéologie du genre au plus grand nombre et de montrer qu'il ne faut pas forcément prendre pour acquis l'interprétation des données. Voilà, et de toujours regarder ce recul de c'est pas parce que dans notre société ça fonctionne comme ça, c'est pas parce que dans notre société on a tel et tel rapport au genre et répartition des rôles qu'il faut forcément l'appliquer. Alors, quand on est au sein d'un milieu, on a l'impression que l'expo tourne beaucoup, mais en fait ça reste quand même dans un microcosme, ça reste dans certains labos d'archéo où les chercheurs concernés vont baisser le regard, ou en fait, je pense pas qu'il y a des choses fondamentalement qui changent, mais nous, ce qu'on vise, c'est surtout en fait nos générations, les nouvelles générations. Pour être franche, la vieille école, c'est impossible de les changer. Enfin, c'est politique, c'est difficile de changer les croyances de quelqu'un de plus de 50-60 ans, vraiment compliqué, ça on le voit pour beaucoup d'autres situations sociétales problématiques. Donc nous, ce qu'on veut vraiment, c'est alerter aussi les victimes de ces comportements-là et la jeune génération, alertée sur ce qui n'est pas acceptable. Pour que déjà, c'est un premier pas. Ensuite, on aimerait bien sensibiliser aussi peut-être les personnes qui peuvent être les auteurs et les autrices de ces harcèlements, de ces comportements-là, qui ne se rendent aussi peut-être pas compte de l'importance que ça peut avoir. Donc on a cet aspect-là. Et malheureusement, en fait, si on crée des expositions comme ça, c'est qu'il reste tout à faire. Et en fait, c'est la première grosse libération de la parole dans le sexisme en archéologie, par exemple, comme ça l'a été avec la vague MeToo, la vague de dénonciation, qui a été le haut de l'iceberg, pour une fois hors de l'eau. Donc c'est très bien, mais en fait, il reste tout le reste. Qu'est-ce qu'on fait de cette parole-là? Comment est-ce qu'on la prend en charge? Y a-t-il les structures qu'il faut pour être écoutée, être prise en charge, etc. Donc je pense que ça fait déjà ça met un peu le pavé dans la mare. Et j'espère de tout cœur que ce sera le début de quelque chose de beau avec des procédures peut-être mises en place de façon plus réglementaire, de façon plus protocolaire et qu'il y ait vraiment des choses qui se créent pour l'écoute et l'accompagnement des victimes et pour que les victimes aient de moins en moins de mal à se confier et qu'il y ait une vraie prise en charge derrière. Mais c'est pas du tout le cas encore. Ah ouais.